L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, la rédaction de Zeronet.com, bien sûr, comme chaque samedi, avec Éric Le Bourlou qui nous rejoindra. On parlera entre autres de la Paris Games Week, vous savez, ce grand rendez-vous dédié aux jeux vidéo qui se déroule actuellement d'ailleurs jusqu'à la fin de ce week-end. On va d'ailleurs parler de jeux vidéo dans une minute. Et puis, tout à l'heure, notre World Tour et notre French Tech Tour. Mais, dans l'immédiat, pour notre passion selon Sanet, je ne sais pas si Lila Megrawa est une gameuse. Est-ce que Lila, de temps en temps, vous jouez?
Non, pas vraiment, parce que je suis très mauvaise perdante.
Même pas un petit, même pas une DS, un Tetris, un machin comme ça.
Candy Crush à la nuit.
Ouais, Candy Crush. D'accord. Ouais, bah c'est un début, on va dire. Voilà. Et avec Lila, on va parler maintenant d'art et d'histoire dans le jeu vidéo.
En revanche, l'art et l'histoire m'intéressent.
Bien sûr.
Vous le savez, François, beaucoup
et oui.
plus. Alors pourquoi, pourquoi on en parle? Tout simplement, vous avez le cas Assassin's Creed, pardon, le fameux jeu vidéo d'aventure
d'Ubisoft.
Tout à fait, d'Ubisoft Canada.
Exactement.
Si je me trompe pas.
Enfin, un petit peu, il y a de la France, il y a du Canada. Vous savez, Ubisoft, c'est un grand studio de jeux vidéo. Il y en a au Canada, il y en a en France aussi. Enfin, il y a des développeurs un peu partout.
Et donc, en fait, la particularité de ce jeu, c'est que l'intrigue prend place à la fois lors des croisades et dernièrement, dans le dernier épisode, si je me trompe pas, dans le Londres de la reine Victoria. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un sujet autour de l'art et de l'histoire
dans le jeu vidéo.
Alors pour en parler, on a le plaisir d'avoir deux spécialistes. Richard Fremder, bonjour.
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 Alors Richard Fremder, vous êtes historien et président de Temporium. Ça fait quelques années que vous avez saisi le numérique comme support de passage de savoir, de connaissances. Vous êtes un vrai vrai conteur.
Merci.
Et on a également le plaisir d'avoir Jean-Jacques Launier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jean-Jacques Launier, vous êtes cofondateur du musée Art Ludique et également commissaire de l'exposition L'art dans le jeu vidéo.
Tout
alors
fait.
Jean-Jacques, vous avez vous avez un peu en moto une prise de parti qui est assez originale, à savoir que ce que vous dites, c'est que l'art, c'est que le jeu vidéo est un peu l'art contemporain d'aujourd'hui. Est-ce à dire que le génie créatif se niche, se cache, se réfugie dans le jeu vidéo?
Je pense pas que ce soit un positionnement vraiment original, sauf à dire que le grand plug anal qu'on a voulu nous mettre à Paris l'année dernière est vraiment l'art contemporain, auquel cas, dans ce cas-là, effectivement, il va falloir s'interroger sur ce qu'est l'art. Et je pense que, clairement, si on veut faire de l'histoire de l'art, parce qu'on parle d'histoire et d'art, le relais culturel et artistique avec les grands artistes, notamment du 19e, par exemple, c'est évidemment dans le figuratif narratif, et c'est bien sûr dans le jeu vidéo, et c'est vrai qu'on a fait une expo, hein, pas pour en faire de la pub, mais on voit à quel point, même Beaux-Arts Magazine compare ça, au personnage de Jericho, enfin, il y a vraiment une espèce de style, un académisme, et même un côté littéraire dans le jeu vidéo qui est vraiment très intéressant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs, les designers sont les artistes d'aujourd'hui?
Je pense que je compare ça souvent aux ateliers de la Renaissance italienne où il y avait beaucoup d'artistes qui venaient tous travailler ensemble autour d'une grande œuvre. À l'époque, c'était l'Église qui aidait le commanditaire ou les monarques. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui viennent justement travailler autour de ces grandes productions, qui sont fabuleusement talentueux, qui dessinent, qui peignent, qui sculptent. Et aujourd'hui, le commanditaire, c'est le public. Mais encore une fois, les commanditaires sont la preuve que les plus grands artistes sont au service de ces gens-là. Donc je trouve qu'en effet, il y a une suite logique dans l'histoire de l'art avec ces grands artistes contemporains.
Richard Fremder, est-ce que vous partagez cette vision de le jeu vidéo art?
Oui, complètement. Oui, complètement. Ouais. Que ce soit l'histoire de l'art ou que ce soit l'histoire tout court, en fait,
L'histoire a toujours investi les nouveaux médias, et les nouveaux médias et les nouveaux médiateurs ont toujours investi l'histoire. Ça a toujours été un mélange. C'est vrai que quand on regarde que ce soit le premier jeu de société, on peut imaginer même le jeu des échecs. Ensuite, les livres, puis les romans, et puis les journaux, et puis la radio, et puis la télé, et puis le cinéma, et puis maintenant les jeux vidéo. L'histoire est partout, toujours, quasiment même à l'origine de bon, le roman, par exemple. Ça très vite, Alexandre Dumas s'en est emparé pour faire des histoires extraordinaires. Donc c'est un peu la même chose aujourd'hui avec le jeu vidéo qui va en plus sublimer par l'image et qui va un peu comme disait monsieur effectivement, comme dans l'atelier de Verrocchio et Léonard de Vinci et tous ces gens-là qui sont, il y a parfois des Léonard de Vinci hein, dans les jeux vidéo, vous citiez Assassin's Creed, c'est hallucinant, on donne l'impression aujourd'hui d'être à l'époque.
Mais alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, messieurs, le succès d'Assassin's Creed ? Est-ce qu'il réside dans l'intrigue, l'intérêt historique, le ludisme ?
Et si c'était tout ça à la fois ? Finalement, non mais c'est vrai, c'est un peu une réponse de Normand, mais est-ce que c'est pas un peu tout ça à la fois? D'abord, il y a les histoires qui sont assez géniales, des histoires de complot, des assassins contre des Templiers, alors les Templiers ça fait rêver, les assassins ça fait rêver, ensuite il y a une histoire de complot général et on est dans une période pas facile où on se dit, ah, ça tout va mal, donc c'est normal, il y a un complot mondial qui se crée, donc tout le monde joue à ça, la jouabilité, je sais pas, j'y joue pas évidemment malheureusement pas souvent, mais la jouabilité est extraordinaire et surtout on est dans un monde, on fait ce qu'on veut. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, les premiers jeux vidéo, on était en vue 2D et puis petit à petit une vue 3D. Maintenant, on rentre dans les bâtiments. C'est extraordinaire. Vous citiez Jérusalem à l'époque, au 12e, 13e siècle. On est en haut des bâtiments et on se met devant Jérusalem et on reconstruit Jérusalem mieux même encore que ce qu'a pu faire le film, les, je sais plus comment il s'appelait, le film sur les croisades. Enfin, il faut savoir en plus que les jeux vidéo aujourd'hui ont dépassé l'industrie cinématographique hein, depuis une dizaine d'années, donc c'est monstrueux.
C'est même, je dirais que c'est tout à fait pertinent. C'est vrai que je pense que si le jeu vidéo fonctionne bien, j'ai coutume de dire que c'est l'art total parce qu'il fait appel au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la musique, à l'écriture et bien sûr à l'interactivité. Et sur Assassin's Creed, ce qu'il faut voir, c'est que le concept du jeu, c'est à travers l'ADN de ses ancêtres remonter dans le temps. Donc ça se passe un coup à Jérusalem, ça s'est passé aussi à Rome, et à Rome, moi qui ai beaucoup collaboré avec eux pour préparer ces expos, ils avaient par exemple pris une carte de Rome au 15e siècle, et ils ont remodélisé tout Rome tel que c'était à l'époque, et c'est fascinant. Et en ce moment, à l'expo, nous on a puisque le dernier jeu, l'année dernière, se passait à Paris pendant la Révolution, et pour les besoins du jeu, ils ont remodélisé tout Paris pendant la Révolution à l'échelle 1. Ça veut dire à l'échelle 1, c'est tout grandeur nature. Pour faire Notre-Dame, ils ont mis 14 mois hein, pour redessiner Notre-Dame grandeur nature. Et dans l'expo, du coup, on avait envie de montrer ce que ça fait grandeur nature. Donc on a un mur géant de 7 mètres de large et de 4 mètres de haut, et on propose aux visiteurs une balade dans Paris grandeur nature pendant la Révolution. Et clairement, c'est éblouissant parce que c'est parfaitement authentiquement et historiquement rigoureusement exact. Et en plus, la lumière et la qualité artistique est fabuleuse.
Je suis d'accord. Faut imaginer qu'il y a une armée de 200 historiens québécois pour le coup, justement là les historiens sont au Québec, c'est étonnant mais c'est comme ça, et ils se sont extraordinairement documentés notamment sur l'ambiance. Oui. Et je crois que c'est ça qui est nouveau et qui était très nouveau dans Assassin's Creed, c'est l'ambiance.
Oui, parce qu'on peut descendre dans les rues, interpeller des gens, etc. Voilà, donc on peut se retrouver en plein milieu de marché où il y a des gens qui sont en train de faire des transactions. Et donc j'imagine qu'il y a eu des recherches pour savoir justement comment ça se passe à l'époque. Donc
des recherches y compris sur la façon dont le corps humain se déplace à cette époque-là. Il faut imaginer qu'à partir de 10 ans, on porte des choses lourdes, on fait des travaux manuels. Donc on ne marche pas comme aujourd'hui, on marcherait dans la rue assez droit, on marche ployé, c'est-à-dire que, y compris jusque dans ce détail-là, c'est fabuleux. Donc ce jeu, c'est quand même le summum absolu aujourd'hui du jeu historique.
Est-ce que ça peut servir de référence, je dirais, pour certains qui ont envie d'étudier l'histoire, par exemple Assassin's Creed, où finalement il y a des libertés, on va dire, qui font que ça peut pas être une référence, on va dire, en termes d'éducation?
On doit pouvoir s'en servir. Oui, il faut, et je dirais même les nouveaux historiens ou les futurs historiens, servez-vous-en, justement pour l'ambiance. Ça donne une impression de... Faut pas oublier que... c'est une super question parce que c'est tout le sujet justement. Faut pas oublier que l'historien est un enquêteur. Mais il n'enquête pas sur l'histoire, il enquête sur les traces de l'histoire. Donc en gros, que vous fassiez un film, un roman ou un jeu vidéo, de toute façon, ce ne sera qu'une impression de... Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginez, là, il y a des séries télé en ce moment très post-apocalyptiques. Imaginez-vous dans 300 ans, on n'a plus rien, on a tout perdu, mais on retrouve deux discours, un du président Chirac sur le Veldiv et un du président Hollande sur le terrible accident qui a lieu là récemment en Gironde. Du coup, les historiens vont dire, les présidents de l'époque s'intéressaient de repentance et de vie quotidienne. C'est pas la réalité, mais c'est leur vision des choses. Pour un jeu vidéo comme Assassin's Creed, il faut s'en servir pour l'ambiance générale, mais on va vous trouver, un historien va vous trouver 10 erreurs à la seconde. Mmh. Mais dans les plus grands films, les plus grandes séries, pareil. Amadeus, qui est un film génial pour l'ambiance. Oui. Combien ont ensuite acheté un disque de Mozart derrière? Je peux vous trouver 10 erreurs à la minute, mais l'ambiance y est, on a l'impression d'eux, je pense que c'est ça le plus important.
Est-ce que ça donne envie de ce que vous observez tous les deux aux gamers d'approfondir un peu le sujet?
Alors moi je peux répondre directement oui. Pardon, je coupe la parole. Oui, j'ai beaucoup d'auditeurs moi maintenant qui m'écoutent, qui écoutent l'émission depuis Assassin's Creed parce que ils ont envie d'en savoir plus. Mm-hmm. C'est formidable. Da Vinci Code a fait ça un peu. Alors pareil, Da Vinci Code, on peut évidemment être très critique envers Da Vinci Code, mais combien sont allés au Louvre derrière? Je pense que c'est ça le plus important.
Jean-Jacques,
le mot de la fin?
Non, c'est vrai, non, absolument. Et alors, il n'y a pas que Assassin's Creed. Il y a des jeux fantastiques comme Soldats Inconnus, par exemple, où on apprend un peu tout sur la guerre 14. Il y a vraiment des choses intéressantes. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est à peu près tout ce qu'on en imagine et c'est le contraire de tout ce qu'on en dit souvent dans les médias. C'est assez fabuleux. Je pense que c'est vraiment important de connecter un public jeune parce qu'il y a beaucoup à apprendre créativement et en même temps, historiquement, il y a plein de choses à puiser, que ce soit Soldats Inconnus ou Assassin's Creed. Clairement, ils sont très proches d'une réalité historique.
Si je peux vous donner juste un petit exemple très très rapide, prenez le jeu Civilization, qui est très connu, tout le monde y joue, etc. Quand moi j'ai fait l'émission sur la découverte du monde, les grandes découvertes, pour qu'on comprenne réellement comment penser les choses, vous avez un monde, vous ne savez pas ce qu'il y a autour, puisque tout est flouté dans le jeu, et vous allez emmener votre caravelle petit à petit pour découvrir, mais c'est très exactement ça. Sauf que là vous êtes devant votre écran, imaginez quand vous aviez des millions d'écus que ça devait coûter derrière.
Eh bien messieurs, merci, ce sera le mot de la fin pour approfondir le sujet. Je vous invite à la fois à écouter la web radio de Richard Fremder Temporium et de découvrir l'exposition « L'art dans le jeu vidéo au musée art ludique ».
Merci beaucoup à tous les deux. Et puis ça donne envie de se plonger dans Assassin's Creed au passage. On revient dans un instant, la suite de l'atelier numérique sur BFM Business. Ce sera notre World Tour, notre French Tech Tour, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Mais oui, bien sûr, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Comme chaque samedi, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Vous le savez exclusivement, donc, sur BFM Business, 16h, 18h. Tout à l'heure, la rédaction de Zeronet.com me rejoindra avec Eric Le Bourlou. On jettera un œil sur toute l'actualité high-tech. Mais dans l'immédiat, avant notre French Tech Tour, notre World Tour et direction. Aurore, en plus, on a répété tout à l'heure la Bay Area.
La Bay Area.
Nous allons à San Francisco. C'est bien ça, San Francisco.
Bon, on a d'habitude d'autres personnes à San Francisco.
Ben oui, on a Nathalie.
On a Nathalie Guillaume, Romain. Aujourd'hui, on est avec Audrey. Audrey Jarre, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Aurore, bonjour François.
On avait reçu Svenia Busson il y a quelques temps sur les technologies dans l'éducation et c'est son acolyte qui réalise à partir de cette année un World Tour spécial éducation. Vous êtes à San Francisco, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'ambiance actuellement?
Tout à fait. Donc on est arrivé à San Francisco il y a une dizaine de jours et c'est vrai que même s'il y a une couverture assez immense des médias spécialisés américains en la matière, je pense qu'on se rend pas compte de l'engouement qu'il y a aujourd'hui, non seulement chez un public de technophiles mais aussi d'étudiants pour les métiers des tech, que ce soit du côté développement ou du côté des business. Et c'est assez fascinant à observer et très bien de se sentir partie intégrante de cette révolution dans l'éducation.
Je crois que la place de l'étudiant dans les initiatives des initiatives EdTech est très importante. Vous avez été notamment au Hacking Edu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Bien sûr. Donc, on a été au Hacking Edu ce week-end. Donc, c'est un hackathon, en fait, une sorte de start-up week-end, mais avec majoritairement des développeurs qui réunissaient plus de 1000 justement hackers venus de partout aux États-Unis. Donc non seulement d'universités ici accès développement, mais aussi business. Et donc ces gens-là ont créé en fait pendant 48 heures une multitude d'applications et de produits à tech. Donc c'était assez fascinant pour nous de voir un petit peu à quelle mesure ces gens-là prenaient la mesure qu'ils pouvaient entreprendre l'éducation et créer des produits qui correspondaient véritablement à leurs besoins actuels. Donc c'était fascinant de leur demander ce qu'ils en fait en tant qu'étudiants semblaient avoir besoin d'eux. Donc c'était passionnant d'être sur place et de voir ça.
Je crois qu'il y a même, vous me disiez, des étudiants très jeunes.
Bien sûr, donc parmi les gagnants, des étudiants de 14-15 ans qui créaient des applications pour avoir accès à une meilleure visibilité sur leur trajectoire professionnelle. Mm-hmm. Donc c'est fascinant de voir qu'il y a une implication de ces gens-là dans le processus de création des produits et qui créent des produits, je pense, plus pertinents et plus adaptés aux besoins en la matière.
Et si on se tourne du côté des professeurs, est-ce qu'ils ont leur place aussi dans le développement de ce genre d'innovation?
Tout à fait. Et c'est ça qui est aussi surprenant, en fait, c'est de voir des communautés de professeurs innovants qui sont très actives sur Internet, mais également, en fait, au sein même des institutions qui créent des produits ou des politiques publiques, en fait. Mm-hmm. On voit beaucoup d'anciens professeurs qui se reconvertissent. Donc, des partenaires des plus grandes firmes de capital risque, en fait, sont eux-mêmes d'anciens profs qui ont décidé de passer de l'autre côté et qui connaissent ainsi vraiment les besoins auxquels ils font face et aident à être ambassadeurs de ce secteur qui est ici non seulement en vogue, voilà, mais qui est établi depuis plus d'une, maintenant d'une dizaine d'années.
Et qu'est-ce que ça dévoile sur la mentalité en fait américaine en matière d'éducation par rapport à la France?
Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que la différence principale, c'est qu'on se pose la question de la meilleure façon d'adopter la technologie, de l'optimiser pour l'apprentissage de différents savoirs, dans la mesure où elle est déjà omniprésente et on s'interroge pas forcément sur son bien fondé. En fait, c'est comme si la conversation avait un peu changé de vecteur là-dessus et que la question qu'on se pose, c'est plutôt voilà le processus d'achat des technologies d'éducation qui fonctionne de manière oligopolistique. On essaie d'améliorer les process, mais on n'essaie pas de les imposer. Les gens, en fait, on conscience d'un changement qui se fait et c'est juste d'accompagner ce changement de la meilleure façon possible.
Alors qu'en France, c'est plutôt on se pose la question est-ce que c'est bien les technologies au final dans l'éducation?
Exactement, et je pense que les Américains ont du mal parfois à comprendre qu'on en soit encore à ce stade et se plaignent de recevoir.
Vous avez été confronté à de l'incompréhension
Un petit peu des partenaires de certaines firmes justement de venture capital qui me disaient qu'ils recevaient peu d'applications de start-up françaises alors qu'ils étaient intéressés justement à voir ce qui se faisait en Europe. L'Angleterre en la matière est vraiment pionnière, vient de créer un organe stratégique à Tech UK pour valoriser ce secteur et ils se demandent justement la France qui est reconnue pour autant pour son éducation de façon générale s'étonne qu'elle n'innove pas autant en la matière. Donc c'est intéressant d'observer cette incompréhension aussi ici.
Et est-ce que vous avez constaté des spécialités, on pourrait dire des spécialités de la Bay Area en matière de technologie?
Curieusement, des choses qui pourraient sembler peu innovantes, mais qui sont très pertinentes, notamment la réinvention de la communication parent-prof, est quelque chose qui est très importante ici. Par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Class Dojo, qui est utilisée dans au moins un tiers des écoles américaines, et qui sert à modifier la gestion des relations avec les parents. Et finalement, la technologie permet aussi d'inclure des nouveaux acteurs dans ce processus, et au-delà de repenser l'acquisition de savoir, permet de repenser les comportements. Et c'est pertinent ici de voir que voilà la question se pose sur comment au-delà de changer changer les pratiques, on change même la pédagogie et on repense la façon d'enseigner.
Merci beaucoup Audrey.
Merci. Je vous en prie et bonne journée à vous. Au revoir.
À bientôt.
Voilà, et après notre World Tour, donc Aurore, place à notre French Tech Tour et on va aller du côté de Bordeaux.
Oui, nous sommes en compagnie de Thomas Baudin, qui est directeur délégué French Tech Bordeaux. Thomas, bonjour.
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 La semaine dernière, Bordeaux a fêté ses un an de labellisation. Alors, on voulait faire un petit peu un retour sur quel impact concret les métropoles qui ont été labellisées ont pu ressentir sur cette année. Et ma première question serait, quel est votre bilan d'un point de vue mobilisation?
Écoutez, la mobilisation à Bordeaux ne se dément pas. Simplement, quand on comptabilise le nombre de participants aux différents événements qu'on organise, il y a un an, on mobilisait à peu près 1000 personnes. Le dernier événement qu'on a fait, qui date donc il y a une semaine, on a mobilisé 1400, 1500, peut-être même 1600 personnes, avec la même importance, la même ferveur. Je pense que c'est vraiment ça le premier impact de la French Tech, c'était de faire émerger un écosystème dans toute sa vitalité et lui donner une existence concrète.
Et est-ce que vous constatez donc la création d'un véritable sentiment de communauté ?
On le constate très très clairement, particulièrement fort sur Bordeaux, et on sent aussi un élargissement de la communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'était porté, enfin à l'origine c'était porté essentiellement par les entrepreneurs, et puis maintenant on voit que les grands groupes s'y associent, on voit que les étudiants s'y associent, les écoles s'y associent, et donc je crois que l'esprit de la French Tech diffuse de plus en plus largement dans les écosystèmes et que c'est vraiment une excellente chose.
Au niveau du nombre de start-up créées depuis un an, est-ce que vous avez quelques chiffres au niveau peut-être entreprises impliquées, investissements ?
Alors, très, très concrètement, ce qu'on constate, c'est que l'impact en termes de financement est de plus en plus marqué au travers notamment des dispositifs de soutien aux start-up en création qu'on appelle la bourse French Tech, puisqu'on a sur les 9 premiers mois de l'année, distribuer deux fois plus de bourses French Tech que sur la totalité de l'année dernière. Ça, c'est la première chose. Et puis l'enthousiasme et le nombre de dossiers qui rentrent ou qui sont présentés aux incubateurs croît selon nos estimations moyennes de 10 à 15% par rapport à l'année dernière. Donc il y a toujours cette mobilisation très très forte. Et puis ce qu'on ressent aussi très très fortement, c'est de plus en plus l'envie d'entreprendre de la part des entrepreneurs. Donc voilà, on n'est pas encore aujourd'hui à la fin de l'année, et on s'est donné comme ambition, comme objectif de dresser un bilan chiffré de tout ça à la fin de l'année. Mais de toute façon, les indicateurs seront très positifs.
Et le but de cette labellisation, à la base, c'était de donner un aspect international aux métropoles. Est-ce que vous constatez une résonance ?
Ah, très concrètement et très clairement. Maintenant, quand vous êtes métropole labellisée et que vous emmenez, comme on le fait nous à Bordeaux, vos entrepreneurs, soit sur le Québec, soit sur l'Afrique, il y a tout de suite une vraie volonté d'entreprendre et de co-entreprendre avec vous. Très concrètement, ça va aboutir, et ça a déjà abouti sur des mesures, notamment sur Québec, de collaboration, par exemple, entre les accélérateurs qui se montent à Bordeaux et ceux qui existent à Québec.
Au niveau des start-up, est-ce que vous constatez aussi un secteur qui se spécialise, et des spécialités particulières ?
Alors il y a des secteurs qui sont historiquement présents sur Bordeaux, le jeu notamment. Depuis très longtemps, une association comme Bordeaux Games soutient la création artistique. C'est quand même à Bordeaux que Calisto est né. Le e-commerce est aussi un secteur très très fort sur la région de Bordeaux avec Cdiscount, qui est un acteur majeur chez nous. On est aussi très fort en matière de big data et de biotech et de medtech. Et enfin, je voudrais dire que dernièrement, il y a un nouveau secteur qui est en train de faire son apparition sur Bordeaux, qui est la fintech. Et notamment, on a eu un très bel événement qui a été organisé il y a 3 semaines dans ce domaine-là et qui est très prometteur.
Et quels sont donc vos objectifs pour la fin de l'année, vos objectifs concrets ?
Pour la fin de l'année, toujours sortir plus d'outils qui permettent de communiquer et de créer une communauté d'accélération et de partage. Donc là, on a un site internet qui va sortir avec des outils qui vont permettre de créer ça. Toujours de travailler plus en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, puisque c'est quand même ça aussi l'essence de la French Tech, c'est mondiale, simplement de faire que l'ensemble des acteurs se coordonnent et travaillent mieux ensemble. Et pour l'instant, on a un ensemble de choses qui vont être annoncées dans ce domaine-là avant la fin de l'année.
Parfait, merci beaucoup Thomas Baudin pour toutes ces précisions.
Merci.
Voilà, directeur délégué de la French Tech Bordeaux. Merci à vous. On revient dans un instant, Aurore. On va poursuivre cet atelier avec un petit rendez-vous du côté de la rédaction de 01net.com, Eric Le Bourlou qui sera là. Et puis juste après, Louis Tressard nous proposera son décryptage. Et puis on retrouvera le crash test d'Antoine Cyr, bien entendu. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà l'atelier numérique sur BFM Business. Comme chaque week-end, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Le crash test d'Antoine dans quelques instants. Mais avant de se dire au revoir, direction la rédaction de 01net.com avec le rédacteur en chef du Pôle Actu et Eric Le Bourlou qui est dans ce studio. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors Eric, l'actualité high-tech cette semaine avec pas mal de bonnes nouvelles. On va commencer par les fans de jeux vidéo qui ont pu se régaler, en tout cas s'ils étaient du côté de la région parisienne, avec cette nouvelle édition de la Paris Games Week qui a cartonné.
Ouais, ça a cartonné et ça a cartonné parce que c'est un événement qui a pris plus d'importance cette année en fait et a pris beaucoup plus d'importance pour une raison simple. Il y a un des plus gros noms du jeu vidéo mondial en fait, tout simplement, qui s'appelle Sony, Sony Entertainment, qui a choisi plutôt que d'aller sur d'autres salons précédents pour faire sa grosse conférence d'avant Noël, a préféré la faire à la Paris Games Week. Donc c'est vrai qu'on a eu droit en fait à une méga conférence, hein, comme savent le faire les grands noms du jeu vidéo.
Et puis une conférence d'envergure internationale. Parce que c'est vrai que la Paris Games Week auparavant c'était un rendez-vous national.
Exactement.
Voilà, mais là on sent que c'est un salon qui prend de l'ampleur.
Exactement, parce que a priori, c'est parce qu'il est aussi il est idéalement en fait situé dans le temps, c'est-à-dire que juste avant Noël, au moment où les gens achètent beaucoup de consoles de jeux, eh bien Sony a fait fort en balançant énormément d'annonces sur ses nouveautés pour sa PS4 et c'est vrai que c'était assez impressionnant. On a vu pas mal de nouveaux jeux, qui étaient attendus par les fans de jeux vidéo et les fans de Sony et de la PS4. On va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais par contre ce qu'on a vu par exemple c'est le retour de la grande franchise du jeu de voiture Gran Turismo que tous les gens qui ont déjà touché une PlayStation connaissent, hein, là, c'est ce jeu de simulation de voiture qui va revenir l'année prochaine
qui était lancé sur la PlayStation 1,
la toute première. Ouais, tout à fait.
Mais on était tout bluffé par les graphismes à l'époque.
Exactement.
C'était sublime.
Exactement. Et donc là Gran Turismo revient. On était petit, ouais. On était petit et puis c'était pas facile en plus Gran Turismo.
Oui, c'est vrai.
C'était pas facile, c'est un vrai jeu de simulation de voiture, donc voilà. Ouais. Mais donc il revient ce jeu dans une version PS4 qui va s'appeler Gran Turismo Sport et qui va mettre ça s'est modernisé depuis la première PlayStation, donc vraiment les graphismes sont exceptionnels et puis aussi il y a toute une partie en ligne, on va pouvoir faire des vrais championnats avec des vrais prix au bout. D'ailleurs c'est ça qui est génial, c'est qu'on va même pouvoir gagner de vrais prix si on est très très bon en Gran Turismo et dans un championnat en ligne. Donc on va les gens pourront s'affronter en défendant leur pays, en défendant leur écurie, et ça c'est c'est une des grosses licences de Sony qui revient sur PS4 et qui est sans doute très très attendu.
Alors il y a d'autres jeux comme Wild par exemple.
Voilà, exactement.
C'est impressionnant.
Assez impressionnant, un jeu de Michel Ancel, Michel Ancel qui est
un grand développeur français
de jeux vidéo qui a notamment créé Rayman.
Tout simplement. C'est quand même respect.
Donc Wild est aussi un jeu qui va être intéressant, qui a l'air assez prometteur. On peut aussi citer Tekken 7, Tekken qui était aussi un des jeux de la première PlayStation qui revient sur PlayStation 4, un jeu de combat que tout le monde connaît bien.
Là on se faisait mal aux doigts, on avait les doigts tout rouges.
C'était un peu ça.
On avait les doigts
tout rouges. Mais surtout dans cette conférence, Sony a mis aussi l'accent sur l'innovation et on sait que Sony va être parmi les premiers à lancer la réalité virtuelle. Ça c'est le nouveau credo des développeurs de jeux maintenant. La réalité virtuelle, ces casques que l'on met sur la tête pour pouvoir être complètement immergé dans le jeu à 360 degrés. Et donc Sony a mis beaucoup l'accent sur la réalité virtuelle durant cette conférence et a aussi montré de nouveaux jeux et notamment Gran Turismo Sport sera aussi compatible avec la réalité virtuelle, donc on pourra s'immerger complètement dans sa voiture pendant qu'on joue.
Voilà, on n'aura plus de vie. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup quand on joue, là on n'en aura plus du tout. Le PlayStation VR, ce masque de réalité virtuelle, devrait sortir l'année prochaine. On n'a toujours pas une date de sortie.
Pas exactement une date de sortie.
Ça pourrait sortir, d'ici la première partie de l'année 2016. Et puis, aucune idée du prix non plus.
Non plus.
Voilà. Mais en tout cas, c'est véritablement en phase de finalisation.
Exactement.
Voilà pour cette Paris Games Week qui se poursuit d'ailleurs tout
oui.
le week-end. Hein,
ouais, jusqu'à demain.
Si vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez aller à les portes de Versailles. Attention, accrochez-vous parce qu'il y a énormément de monde. Énormément.
Il y a beaucoup de monde.
C'est un vrai succès. On va maintenant encore évoquer une bonne nouvelle pour tous ceux qui voyagent par-delà l'Europe et qui utilisent leur téléphone. Eh bien, bientôt, les factures de télécom qui explosent, ben, ça sera un mauvais souvenir.
Oui.
Qu'un mauvais souvenir.
Exactement. On le savait, hein, que bientôt les frais de roaming allaient disparaître. Eh bien, ça a été acté par le Parlement européen. Donc voilà. En juin 2017, il n'y aura plus de frais de roaming, de frais d'itinérance. Si vous allez n'importe où en Europe, vous paierez le même prix. Vous n'aurez plus à payer d'extension de frais supplémentaires lorsque vous surfez sur Internet ou lorsque vous appelez ou lorsque vous envoyez des MMS. Vous paierez le même prix.
Internet. Hein.
Même pour Internet, ouais. Mais ce sera compris. Vous paierez. Ce sera comme si c'était compris dans votre forfait. C'est vrai que il y a une volonté d'aller vers un marché unique des télécoms en Europe et ça en fait partie. Donc les frais de roaming, vont disparaître bientôt. Alors ça va commencer petit à petit. Alors il y a déjà des opérateurs qui vont assez loin. Hein. On sait que Free notamment, mais d'autres opérateurs français proposent déjà des frais de roaming quasiment inexistants sur la plupart des pays d'Europe. Mais là ce sera officiel. Tous les opérateurs vont le faire. Et ce sera donc dès juin 2017 avec une baisse des prix progressive qui aura lieu à partir de l'année prochaine.
Voilà. Et donc, mi-2017, plus de frais de roaming. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Ce sont évidemment les opérateurs qui, eux, font un petit peu la grimace parce que, on le sait, c'était quand même les frais de roaming. Une partie des revenus qui étaient importants,
c'était
des opérateurs.
Des revenus qui étaient importants.
Enfin, cela dit, attention, là, on parle que de l'Europe. Si demain vous allez aux États-Unis,
exactement,
bien sûr,
ce sera pas
vous
la même
ferez fusiller
hein.
de la même manière.
Tout à fait.
Avec votre facture télécom.
Ouais.
Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de toutes ces décisions qui ont été prises par le Parlement européen, il y en a une autre qui, justement, n'a pas été prise et qui, fait poser des questions.
Tout à fait, parce qu'on parlait du problème des opérateurs avec l'arrêt des frais de roaming. Les opérateurs vont peut-être avoir une autre fenêtre de tir pour pouvoir faire plus d'argent. En fait, il y a eu un règlement sur la neutralité du net. Alors, neutralité du net, pour les gens qui connaissent pas, ça peut paraître un peu technique, mais en fait, ça veut simplement dire que sur Internet, tous les paquets de données naissent et demeurent égaux en droit, c'est-à-dire quelle que soit sa provenance et où il va. Ils doivent être traités de la même manière.
Liberté, égalité, fraternité pour les paquets.
Exactement. Sauf que en fait, l'Europe a voulu réglementer un peu tout ça, et effectivement, il y a eu un vote qui a non pas sacré la neutralité du net, mais un internet ouvert. Un internet ouvert, ça veut dire que cette neutralité du net pourrait subir quelques petits coups de canif dans les années qui viennent. On ne sait pas encore parce que c'est un peu flou. Alors on nous a dit que
on pourrait favoriser tel ou tel service, en fait.
Exactement, c'est ce qui pourrait arriver. Et en fait, effectivement, durant ces mêmes votes qui ont eu lieu cette semaine, il y avait des amendements qui devaient passer, qui auraient garanti une vraie neutralité du net, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Mais ces amendements ont été rejetés. Donc, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que demain, un opérateur pourrait, par exemple, privilégier un service plutôt qu'un autre. C'est possible. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on nous dit non, mais vous inquiétez pas, ça va pas avoir lieu. En vrai, on ne le sait pas. C'est très flou. Et effectivement, il se pourrait que demain, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple complètement au hasard, hein, mais que Orange, par exemple, fasse un accord avec YouTube pour que les flux de YouTube soient privilégiés sur le réseau d'Orange au détriment de Dailymotion, par exemple.
Ou Vimeo, etc.
Exactement. Voilà. Et ça pose un problème non seulement de concurrence, mais aussi par rapport à l'offre, parce que évidemment, ça va permettre des offres différentes et ça va peut-être limiter l'innovation sur Internet.
Oui, donc, et puis surtout, ça limite la concurrence.
Et ça limite la concurrence, puisqu'effectivement, un nouveau venu qui arriverait pour proposer des services similaires aurait beaucoup plus de mal à payer les opérateurs, évidemment, parce que tout ça se négocierait pour pouvoir lui aussi être disponible aux abonnés.
Voilà, alors attention, l'exemple qu'on a cité avec Orange, YouTube,
oui,
etc.,
c'est un exemple,
ça n'a rien de vrai. Hein,
ça pourrait être Free et Dailymotion, ça pourrait être SFR
et
Vimeo et Netflix, par exemple.
Exactement, c'était un exemple pour qu'on comprenne bien. On poursuit avec une information importante de la part de Google qui semblerait-il aimerait fusionner deux systèmes que vous connaissez peut-être, Android si vous avez un téléphone Android, avec celui de Chrome OS qui est un autre système qui marche sur les PC, on va dire portables.
Exactement. C'est une information du Wall Street Journal qui est en général plutôt bien informée et effectivement Google s'apprêterait à fusionner ces deux systèmes. Android est un grand succès. Il est omniprésent sur les mobiles aujourd'hui. Tous les grandes marques, à part Apple, évidemment, utilisent ce système dans leurs smartphones. Par contre, Chrome OS, on le connaît un peu moins. En fait, c'est un OS qui repose sur Chrome, le navigateur, qui est très très basique, qui vous permet essentiellement de surfer sur Internet et qui équipe en fait des PC pas chers qu'on trouve effectivement dans différentes boutiques, mais qui n'a jamais vraiment connu le succès par rapport à Windows par exemple. Et l'idée de Google serait de fusionner ces deux systèmes pour pouvoir arriver avec la puissance d'Android et de son App Store, hein, parce qu'il y a des millions d'applications pour Android, sur de nouveaux terminaux, par exemple, typiquement un ordinateur, un PC, vous pourriez, pourquoi pas, demain, installer Android dessus et avoir toute l'expérience que vous connaissez sur Android sur un ordinateur. Ça se ferait assez rapidement, puisque les premiers terminaux pourraient arriver dès 2017. Donc, même si Google a voulu un peu diminuer,
amoindrir cette
rumeur, puisqu'ils ont dit que non, vous inquiétez pas, Chrome OS continue. Il se pourrait que Chrome OS continue, mais qu'en fait, qu'il le diffuse en open source, qu'il le propose en open source pour qui veut puisse l'utiliser, mais que de
son
côté,
plus stratégique, en fait.
Mais effectivement, Google la suit un petit peu la logique de Microsoft, hein, qui a avec Windows 10 fait le même système sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur les consoles de jeux, et donc avec un Android mixé à Chrome OS, ça permettrait à Google de couvrir beaucoup plus de terminaux différents.
Et on va terminer, Eric, par cette petite info amusante. C'est le gouvernement qui a communiqué en fait sur les anglicismes qu'on pourrait éviter au quotidien.
Alors d'après le gouvernement, il faut éviter certains anglicismes high-tech.
Alors c'est promouvoir la francophonie, bien évidemment. Voilà. Ça part d'un bon sentiment, bien sûr.
Bon sentiment, mais c'est vrai qu'on a tendance.
Parfois ça donne des résultats un peu bizarres. C'est ça le truc.
Exactement. On a souvent tendance, nous, moi y compris, à effectivement utiliser des termes anglais plutôt que des termes français.
Évidemment.
Mais alors. Alors que nos amis québécois arrivent souvent à trouver des bonnes alternatives aux mots anglais, on a parfois un peu plus de mal en France. Alors, on a plusieurs. Le gouvernement nous dit donc qu'il faut éviter d'utiliser certains mots anglais. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, smiley, hein, qu'on utilise beaucoup, smiley. Ça devrait être une frimousse. Pourquoi pas?
Une
frimousse. Ouais, vous pouvez envoyer. C'est mignon.
C'est mignon.
C'est mignon, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile.
Ça passe pas bien.
Ça passe pas bien. Il y a plus bizarre. Par exemple, il y a hacker. Ouais. Comment on dit un hacker en français?
Un hacker,
on dit, il faut dire un fouineur.
Un fouineur, un hacker.
Voilà. Un fouineur est un peu péjoratif. En
oui,
plus.
C'est vrai.
Un hacker, c'est pas forcément péjoratif.
C'est pas un pirate, un hacker.
C'est pas un pirate.
Hein. Non.
Voilà. Alors que le fouineur, on a l'impression qu'il va fouiller un peu partout.
Oui, c'est ça.
Il a pas trop. Voilà. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est le terme conseillé par le gouvernement. Et on a aussi des trucs qui sonnent un peu vieillots. Par exemple, webcam, on nous conseille de le changer par cybercaméra. Alors, je sais pas si vous avez entendu quelque chose avec le terme cyber depuis longtemps.
Ça
fait penser beaucoup.
Depuis cybercafé, quoi.
voilà. Ça nous rappelle un peu les années 90, en vrai.
C'est ça, ouais.
Voilà. On va passer les autres, mais il y a aussi, par exemple, pop-up. On conseille fenêtre intruse. Je sais pas si vous l'utilisez beaucoup. Voilà. Et spam arrosage. Voilà. Une campagne de spam, une campagne d'arrosage.
C'est une campagne d'arrosage.
Pourquoi pas?
Oui, très bien. Bon.
Voilà.
Bah écoutez, cybercaméra, je valide.
Cybercaméra, vous validez.
J'aime beaucoup ça. C'est très sympa. Tiens, on va se faire une petite discussion en cybercaméra. Ça va être cool. Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourleau, rédacteur en chef du pôle actu de 0net.com et suite et fin de l'atelier. Tout de suite, avec entre autres le crash test d'Antoine.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier sur BFM Business. Dans un instant, le crash test d'Antoine Cyr. Mais auparavant, c'est le décryptage de Louis Trossard cette semaine, qui est le directeur général de l'atelier, vous le savez. Et avec Louis, on va parler du citoyen cette semaine, Louis, qui est le moteur de la Smart City.
Oui, François. Alors cette semaine, pour ce décryptage, on retrouve Louis Trossard, notre cher directeur général à l'atelier et directeur de la prospective. Alors cette semaine, on va s'intéresser à la Smart City. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors Louis, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se cache quelque part derrière la Smart City, la ville intelligente selon vous?
Je ne sais pas ce qu'il se cache derrière, Lila, mais un certain nombre de phénomènes historiques se sont passés sur ce terrain de jeu qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. J'ai envie de dire de façon très simple, c'est comment la ville peut résoudre un certain nombre de problématiques particulièrement dans le secteur public, avec les services de la voirie, le problématique de l'énergie, etc. Et on voit d'ailleurs qu'historiquement, le sujet a été traité par des acteurs technologiques, hein, puisque ça a fait suite à, entre autres, une conversation avec Bill Clinton et puis le président de Cisco, pour résoudre, a priori, à proprement parler, une problématique de transport, de fluidité. Et puis, dans le temps, d'autres acteurs se sont appropriés ce terrain de jeu, j'ai envie de dire, des acteurs traditionnels, des acteurs des pure players, ce qu'on appelle, donc les acteurs comme Google et un ensemble de plateformes de services qui œuvrent en récupérant de la data par rapport aux usagers que nous sommes tous. Et puis aussi, bien évidemment, le citoyen, via le mobile qui lui a donné un véritable pouvoir, puisqu'il l'utilise aussi bien via des applications aujourd'hui pour faire part d'observations, pour faire part de, par exemple, qu'un lampadaire ne s'éclaire plus ou de problématiques sécuritaires dans son quartier. Donc je dirais qu'une véritable boîte de Pandore existe aujourd'hui dans les services et les possibilités. Mais on voit bien qu'entre un certain historique relativement technologique et top-down du sujet, aujourd'hui, on en arrive à une notion de pouvoir du citoyen, et c'est bien là le fondamental dans la ville, puisque c'est l'habitant, comment il va vivre dans cette ville, comment il va la faire évoluer, et c'est à lui qui, de façon individuelle et collective, que doit être pris en compte, je dirais, ses attentes.
Alors, quelle évolution y verriez-vous dans cette ville intelligente avec le citoyen au centre, au cœur?
Je dirais que déjà là, la data, puisque je crois que j'ai utilisé déjà ce terme, c'est très important de pouvoir récupérer donc de l'information. Et de cette information, j'ai envie de dire qu'il y a aussi une convergence de phénomènes aujourd'hui entre l'économie, entre la déception qu'il y a de part et d'autre sur le politique, sur l'administration, sur un certain nombre de services, où part notre argent, qu'est-ce qui est fait. Encore une fois, donc, on en est arrivé à cette possibilité de donner du pouvoir au sein de la ville, aux citoyens. Et donc, une espèce d'ubérisation possible aujourd'hui du pouvoir, du politique, de l'administration de la ville. Il y a un phénomène qui est pour moi aussi très important avec l'humain, avec l'habitant, c'est de voir quels sont les fondamentaux au sein de cette ville. Là, je parlais de pouvoir du citoyen, mais il y a aussi qu'est-ce qui fait vibrer la ville? C'est son histoire, son historique, sa culture. On voit par exemple qu'il y a eu des modèles de villes comme Sando, comme Masdar au Moyen-Orient, Sando étant en Corée, qui sont de véritables villes laboratoires développées pour un certain nombre de raisons. Ces villes, d'une part, n'ont pas réussi à obtenir la densité démographique qu'elles souhaitaient pour rentabiliser leur investissement. D'ailleurs, on ne voit pas vraiment de pauvres dans ces villes. Mais plus intéressant que cela, j'ai envie de dire, c'est l'aspect, encore une fois, historique. C'est-à-dire que ces villes n'ont pas réussi à développer la culture, ce qui est un fondamental dans la cité. Et à partir du moment où elle l'est dans la cité, elle l'est également, bien évidemment, dans la cité, dans la Smart City. J'ai envie de conclure que la ville va tirer toute son énergie, sa créativité et donc son développement du citoyen. Au même titre que l'entreprise tire toute sa créativité, sa performance du collaborateur.
Merci beaucoup, Louis Tressard. À bientôt.
Louis Tressard, merci. Et place donc maintenant avec Antoine Cyr au crash test pour terminer cet atelier. Alors, Antoine, on va parler de quoi en ce samedi après-midi?
On va parler de verre coquin.
Le verre coquin?
Oui.
D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour attaquer un crash test avec ce terme-là? Rien de particulier?
Écoutez, j'essaye de toujours trouver les termes qui peuvent avoir le rapport le plus improbable avec le monde nouveau que nous décrivons dans cette émission.
Le monde de l'Internet.
Le monde de la toile, voilà.
D'accord.
Et donc, d'abord...
Et verre coquin, c'était pas évident au début, j'imagine.
C'était pas évident. Mais d'abord, il y a une chose quand même. Le principal progrès qu'a apporté Internet à l'humanité, c'est que le littré est sur Internet.
Et oui,
le dictionnaire des 1000 littrés. Avoir ou ne pas avoir un littré, c'était ce qui faisait de vous ou ne faisait pas un lettré. vous étiez vraiment, si vous n'aviez pas de littré, vous étiez perdu.
Vous étiez illettré.
Vous étiez comme une taupe malheureuse errant au cœur de la pampa. Voilà. Vous imaginez une taupe dans la pampa.
Ah oui,
c'est ce que vous étiez. Et donc, maintenant, vous n'êtes plus là. Et donc, vous tapez...
Grâce au web.
Donc, vous tapez « vert coquin » et là, vous arrivez sur le littré qui vous parle de « vert coquin ». Alors, « vert coquin », ça s'écrit dans
oui,
le cas
la
du...
la bonne orthographe, s'il vous plaît.
La bonne orthographe, c'est « ver-coquin ».
D'accord.
C'est un mot composé officiel
oui.
qui a sa définition dans le littré. Figurez-vous que le « vert coquin », c'est le nom vulgaire des larves de divers insectes qui font beaucoup de tort aux bourgeons des vignes. Ce sont les rhynchides bacchus, les coléoptères, le molpe vitis,
et
la pyrale de la vigne et les lépidoptères. Voilà. Donc tout ça, ce sont
des vers coquins.
Leurs larves sont des vers coquins.
Ah oui.
C'est aussi le nom vulgaire du coénure, d'Helminthe, qui se développe dans la tête du mouton et qui cause un vertige appelé tournis. Et puis c'est ce vertige lui-même. Donc
le vers coquin,
c'est un tournis. Et puis c'est aussi un caprice, une fantaisie. Sans doute ça dérive justement de cette acception du mot dans le sens de tournis. Et donc ça veut dire. Et donc il y a par exemple une citation qui est donnée par le littré qui est et de mon vers coquin je ne puis me défendre. Ça veut dire je ne peux pas me défendre de mon caprice. Alors savez-vous comment on écrit au pluriel des vers coquins? Comment vous l'écririez?
Des vers coquins. Si un tiré, je mettrais pas de S à vert, mais je mettrais un S à coquin.
Eh bien, il y a un S aussi à vert.
Ah là là. Ah zut.
Voilà. Et alors, vert coquin, c'est aussi bien sûr le titre d'un roman célèbre de Boris Vian, publié en 1946, qui s'appelait Vert coquin et le plancton.
Oula.
Et oui. Et alors là, c'est tout à fait étonnant parce que il ne faut pas oublier que ce livre, Vert coquin et le plancton, est une caricature de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Où travaillait Boris Vian.
D'accord.
C'est là qu'en tant qu'ingénieur, puisque Boris Vian était ingénieur de formation, c'est là qu'en tant qu'ingénieur, Boris Vian travaillait. Et vous savez que finalement, l'AFNOR, c'est un peu l'ancêtre des standards. Aujourd'hui, on est sous iOS, on est sous Android, et finalement... Aujourd'hui, c'est l'informatique qui décide le standard. Enfin, plus exactement, ce sont des techniciens qui décident les standards. Mais à un moment, le standard vous est appliqué parce que vous le choisissez. Mais quand on est dans une époque non informatique, le standard, il faut que ce soit... Ça n'existe que parce que c'est une norme. Et donc, la normalisation, elle joue. Elle existe encore, bien sûr. Il faut une normalisation pour des tas de choses, pour les prises de courant, pour les phares des voitures, pour tout. Enfin, il y a des milliards de normes. Je ne sais pas combien il y en a. C'est une question.
C'est nécessaire.
Mais c'est nécessaire. Mais autrefois, la normalisation, c'est vraiment le cœur de la société industrielle. Et donc, le brave Boris Vian était un employé de l'AFNOR. Et en somme, la représentation de l'humour, de l'absurde qu'il met dans son roman Le ver coquin et le plancton est une illustration de ça. Et d'ailleurs, le titre lui-même, ver coquin, a un lien avec la définition que je vous donnais tout à l'heure dans le littré, puisque justement, le ver coquin, c'est une espèce de parasite. Et puis aussi, il y a ver comme le verre des goulots de bouteille que Boris Vian devait normaliser à l'AFNOR, puisque la normalisation, la taille des goulots de bouteille, ça fait aussi partie choses
évidemment.
Qui font l'objet de normes. Voilà. Donc, alors, vert coquin, il y a aussi, avec un nom pareil, c'est aussi associé aux bonnes saveurs et aux bonnes bouteilles, justement. Et oui, on peut penser que vert coquin, donc ça s'écrit V-E-R-C-O-Q-I-N, mais ça fait un peu penser quand même à vert coquin.
Oui.
Et donc, il y a un restaurateur lyonnais et caviste qui s'appelle Vert Coquin et qui propose un bar à vin, qui propose d'organiser des buffets. Bon, c'est évidemment plutôt amusant comme titre de s'appeler Vert Coquin. Et puis alors Vert Coquin, c'est aussi le pseudonyme. J'ai trouvé un jongleur qui se fait appeler Vert Coquin. C'est un jongleur là aussi de Lyon. Hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez lyonnais dans l'utilisation du Vert Coquin. C'est un jongleur médiéval, donc il propose des histoires médiévales, il propose des jongleries à l'ancienne. C'est ce que fait Vert Coquin.
Vert Coquin donc, et donc au pluriel. VERS Coquin avec un S aussi.
Voilà, et puis c'est l'occasion quand même, n'hésitez pas à relire tout Boris Vian, et notamment cette farce, ce roman proche de la farce, qu'est Vert Coquin et le plancton.
Très bien, je ne le connaissais pas celui-ci. Vous l'avez lu, vous ?
Eh bien, je vais vous dire non.
Non.
Je vais le lire. Mais non, je n'ai pas lu Vert Coquin et le plancton, je dois l'avouer. Vous m'avez posé la question qui tue, et je vous réponds que non.
Antoine, on se retrouve, bien sûr, samedi prochain, vous le savez, le crash test d'Antoine Cyr, c'est chaque samedi, pour conclure cet atelier numérique que vous avez, j'espère, apprécié. Rendez-vous samedi prochain dès 16h sur BFM Business. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et puis si vous avez raté un bout de cette émission, sachez que vous pouvez nous retrouver en podcast à la fois sur le site www.atelier.net, mais aussi sur iTunes et sur le site de bfmbusiness.com. Bon week-end à tous et à samedi prochain.